Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique.
Pourquoi ça dure comme ça depuis 30 ans? Ça dure comme ça depuis 30 ans parce que ce sont des ouvriers qui sont touchés. Et donc on n'en a rien à foutre.
Ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter ça? Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent? Ce n'est pas le problème de l'immigré.
Enfin, quelque chose se passe! Quelque chose, mais quoi?
Mais quoi? Alors, bonsoir Quentin.
Bonsoir.
Il y a quelques mois, tu fondais les Insoumis de l'ENS de Lyon, un groupe de la France Insoumise à l'ENS, avec sa page Facebook qu'on a vu apparaître sur nos fils d'actualité. Ce soir, nous te recevons pour discuter justement un petit peu de ce que sont ces Insoumis, de ce qu'ils sont, ce qu'ils apportent à la gauche française, la vision qu'ils apportent et puis aussi celle qu'ils apportent dans l'ENS finalement, parce que la politique est à nos portes, savez-vous, chers auditeurs. Mais pour commencer donc, le mouvement des Insoumis, peut-être tout simplement, c'est quoi? Quelle est l'histoire politique de ce mouvement? D'où vient-il?
Alors l'histoire des Insoumis, très rapidement, en fait, on a ce qui a surtout été repris au niveau des grandes instances, donc bah, forcément le même candidat que le parti de gauche en 2012, donc Jean-Luc Mélenchon, il y a toujours Alexis Corbière, Charlotte Girard pour les porte-parole. Et au niveau des, par exemple, des économistes qu'on retrouve, on a toujours Jacques Généreux. Donc à ce niveau-là, c'est toujours plus globalement la même équipe. Là où je pense qu'il y a une vraie évolution entre ce que pouvait être la candidature de Jean-Luc Mélenchon avec le Front de Gauche en 2012 et de ce qu'elle a été avec la France Insoumise cette année, je pense qu'il y a une vraie évolution au niveau du militantisme. Déjà, alors, il y a 5 ans, donc on avait vraiment un parti, le parti de gauche, avec des militants, donc c'était quand même quelque chose de beaucoup plus d'adhésion. La France Insoumise, c'est quelque chose, à mon sens, qui a été beaucoup plus, en partie en tout cas, beaucoup plus d'associations, dans le sens où y a beaucoup de gens en fait à la France Insoumise qui ne militaient pas avant. Et moi, je pense que la force de ça, c'est d'avoir su amener ces gens-là, notamment beaucoup d'anciens de Nuit Debout.
Alors justement, tu en arrives là où je voulais en arriver moi-même. Les gens qui composent ce nouveau mouvement, qui sont-ils? Parce qu'ils ont une histoire personnelle qui est généralement assez particulière. Tu parles de Nuit Debout, etc. Il y a une sociologie de ces gens-là, finalement, qui est assez particulière.
Alors, en fait, si je voulais un petit peu caricaturer, il y avait deux types de militants à la France Insoumise, en tout cas dans ceux que j'ai rencontrés. Il y en a beaucoup, c'était pas du tout leur première campagne, ils avaient déjà fait celle du Front de Gauche il y a 5 ans, et ce sont souvent des gens qui sont issus du Parti communiste ou des jeunesses communistes. Donc, ce sont des militants bien rodés. Et on avait beaucoup de gens pour qui, donc, ce que j'ai dit, c'était la première campagne présidentielle. Pour une partie d'entre eux qui s'était découvert une veine un petit peu militante à Nuit Debout. Et la France Insoumise aussi a fait venir beaucoup de gens qui ont vu, par exemple, les vidéos de les revues de la semaine de Mélenchon sur YouTube, qui se sont dit, bon, ben, on porte quand même des choses un petit peu nouvelles qu'on aimerait un petit peu entendre. En fait, simplement des gens qui voulaient une gauche de gauche.
Mais alors, tous ces gens, ça fait quand même beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens d'un milieu assez urbain.
Alors oui. Alors, en fait, moi, je dirais que il faut se demander... Il y a beaucoup l'héritage de Nuit Debout, en fait, dans ces militants, dans ces, on va dire, néo-militants. Et ça, oui, forcément, c'était des mouvements très urbains, déjà, parce que souvent, les grosses Nuits Debout, c'est dans les grosses villes. Il n'y a qu'à voir à Paris, à Lyon, à Marseille, etc. Donc oui, effectivement, beaucoup d'étudiants. Et surtout sociologiquement, beaucoup de catégories sociales à fort capital culturel, donc qui forcément sont effectivement concentrées dans les villes, dans les grandes villes. Ce qui explique d'ailleurs que dans des villes comme Toulouse, Mélenchon soit arrivé en tête, ou en tout cas, par exemple, était très bien positionné à Lyon.
Alors, tu parlais des vidéos YouTube de Mélenchon, et c'est vrai que sa campagne a été marquée par une stratégie de communication extrêmement novatrice, hein, telle qu'on n'en avait pas encore vu jusqu'ici. Il y a vraiment une autre façon de faire la campagne qui s'est exprimée à travers ce mouvement de la France insoumise. Alors, vu de l'intérieur, qu'est-ce que cette campagne a de novateur, tant par les méthodes que par les thèmes qu'elle a pu aborder ?
Alors déjà... Un truc qui a attiré beaucoup de monde, c'est que cette campagne était très contributive, et ce sur plusieurs plans. Déjà, sur Internet, donc, on pouvait contribuer au programme, donc ça a duré un an, hein. ça fait depuis un an que donc, sur la plateforme et sur le Discord, le programme est rédigé, retravaillé. Ça a donné lieu à la publication du petit livre « L'avenir en commun » et des 327 propositions.
Alors le Discord, c'est un outil de travail collaboratif.
Le Discord, oui, c'est un outil de travail collaboratif qui sert aussi un petit peu de forum. Par exemple, en ce moment, ça discute sur le Discord pour savoir ce qu'il faut essayer de voir ce qu'il faut faire au second tour. Donc oui, en cela, donc déjà au niveau du programme, c'était très collaboratif, et au niveau des actions. Notamment grâce au groupe d'appui, on va peut-être y revenir, mais grâce au groupe d'appui, chacun pouvait un petit peu, selon ses disponibilités, selon ses envies, simplement, participer à des actions près de chez lui. Et ça, je pense, c'est pas étranger au score très élevé quand même, par rapport à tout, en tout cas à ce qu'on pouvait prévoir il y a encore quelques mois, qui a été réalisé.
Donc une campagne beaucoup plus horizontale que tout ce qui a pu se faire. C'est quelque chose qui vient aussi de la culture d'Internet dont s'est emparée la France insoumise. Culture d'Internet qu'on retrouve aussi dans le programme, puisque ce programme fait la part belle à des questions comme le numérique, comme l'écologie, dont la gauche entre guillemets radicale ne s'était jamais vraiment emparée jusqu'ici. Comment est-ce que tu vois l'arrivée de ces thèmes assez nouveaux dans le discours de la gauche ?
Déjà... on a eu 5 ans de gauche. On sort de 5 ans de gauche, en tout cas nominalement. C'est pour ça que je vois Marie qui met des guillemets. Effectivement, on sort de 5 ans de gauche, bon, convertie, effectivement, qui a été convertie dans les années 80 au néolibéralisme, et dans laquelle on trouve une énorme primauté de l'économique sur tout le reste. L'intérêt de cette campagne, effectivement, c'est d'avoir intégré des thèmes nouveaux. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que... En tout cas, moi, je l'ai lu comme ça. On voit bien que faire une campagne comme pouvait le faire le Parti communiste dans les années 90, ça ne fonctionne plus. Parce qu'il y a des enjeux, effectivement, qui ont évolué. Il y a l'enjeu de la transition et de la planification écologique. Il y a l'enjeu, éventuellement, de la décroissance. Il y a l'enjeu du numérique. Donc tout ça, ça amène, effectivement, à recomposer énormément le programme. À parler de ces choses-là, à pas forcément les voir, par exemple, à pas forcément voir le numérique comme un outil type Uber. Donc effectivement, l'intérêt de ça, et surtout d'avoir mis en évidence l'idée, d'ailleurs c'est le titre du programme, hein, l'avenir en commun, l'idée que ces choses-là, finalement, c'était qu'il fallait provoquer une prise de conscience sur ces thématiques-là, qui finalement nous concerne tous.
Et nous sont communes.
Et nous sont communes, du coup.
Alors justement, de commun à communisme, on a envie de faire le jeu de mots, on a envie que la langue fourche. On parlait de la gauche tout à l'heure. Est-ce que le terme gauche est encore d'actualité aujourd'hui, surtout compte tenu des résultats qui viennent de tomber ? Et si oui, quelle place la France insoumise, entend y tenir ? Quelle est la place qu'elle doit se créer ? Et comment elle espère reconfigurer cette gauche ?
Alors déjà, je vais partir des résultats de dimanche. Le score qui a été fait par la France insoumise, notamment comparé à celui du Parti socialiste, déjà, je pense qu'on peut en conclure effectivement que on a une vraie force de gauche à gauche. Donc une force de vraie gauche à gauche. Donc ça, déjà, c'est très bien. J'emploie beaucoup le terme de gauche. Justement, tu poses la question, le terme de gauche est-il d'actualité ? Alors en fait, il y a beaucoup de gens à gauche qui préfèrent dire progressiste. Mais ça veut dire quoi, progressiste ? Macron aussi dit progressiste.
Oui.
Tu vois ? Non. Gauche, ça sous-entend un certain nombre de choses. Ça sous-entend l'idée... du refus de la domination du capital sur le travail, l'idée justement qu'il y a des communs, l'idée que, par exemple, on préfère des choses comme salaire ou à des termes comme pouvoir d'achat, par exemple, des choses-là. Donc voilà, c'est vraiment ça, il faut continuer à l'utiliser.
Et du coup, aujourd'hui, la France insoumise au sein de cette gauche, elle incarne l'avenir d'une gauche ? Parce que là, les législatives arrivent, et puis il y a quand même une vie politique qui continue en France.
Alors, déjà, la France insoumise, pour la France insoumise, la campagne n'est pas terminée. Effectivement, il y a les législatives au mois de juin. Donc ça, la campagne n'est pas terminée. Effectivement, là, on fait une petite pause parce que, en tout cas, il y a une partie des militants de la France insoumise qui ont pris un peu une douche froide dimanche. Donc oui, il y a les législatives. Alors après, la France insoumise va très probablement se transformer en parti. Donc on peut espérer être enfin le parti qui représente la gauche.
Alors on va passer à une dernière partie de cette interview parce que tu représentes donc les insoumis de l'ENS de Lyon. Alors en tant que groupe d'appui, quelles ont été vos actions et puis quelle est la pertinence finalement de créer un groupe politique à l'intérieur de l'école ? Quel est cet ancrage local dans cette structure qu'est l'école ?
Alors déjà, quand on a créé avec Léo le groupe d'appui donc à la toute fin du mois de janvier, l'idée c'était vraiment de partir du local pour une raison très simple, c'est parce qu'on se connaît, on se croise tous les jours en fait. Du coup c'est très facile de se parler, de construire des choses. Et l'idée des groupes d'appui effectivement au sein de la France Insoumise, c'était de construire des petites cellules localement, donc par réseau dans lesquels on se parle, on se connaît, pour après s'agréger et faire un mouvement plus national. Donc l'idée, c'était pas de parler des insoumis à l'ENS de Lyon, c'était vraiment de prendre l'ENS pour s'organiser entre nous et se greffer au mouvement plus général. Parce que je sais qu'il y avait des gens que ça intéressait, mais qui forcément, tout seul, c'est un petit peu compliqué peut-être.
Et alors du coup, qu'est-ce qu'on y fait aux insoumis de l'ENS de Lyon ?
Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est très vite rendu compte qu'il manquait, au niveau des tractages, des collages, etc., qu'il manquait du monde dans le secteur du 7e arrondissement. Donc tout de suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis à tracter sur les marchés, notamment les marchés de Jean Jaurès et les marchés de Jean Massé. On s'est mis à tracter au métro, au tram de Bourg. On s'est mis à coller. Et puis petit à petit, surtout, on a commencé à collaborer avec d'autres insoumis, d'autres groupes d'appui du 7e arrondissement ou d'ailleurs. Et donc ça, c'était cool. Et maintenant, on est invité aux apéros des insoumis.
Et alors, à l'échelle du groupe d'appui, peut-être, comment ça se poursuit maintenant ?
Alors, ce que certains vont probablement faire, c'est continuer la campagne, puisque dans le 7e arrondissement, dans la première circonscription dont fait partie le 7e arrondissement, il y a un candidat qui s'appelle Eliott Aubin qui a une chance significative de gagner. Mélenchon a quand même fait deuxième dans le 7e arrondissement. Donc je pense qu'il y en a qui vont commencer la campagne. Peut-être de manière un petit peu moins soutenue, parce qu'on va quand même être plus occupé vu que c'est la fin de l'année. Et puis après, il y a beaucoup de gens, y compris moi, pour qui la campagne de la France Insoumise, le militantisme, ne s'arrêtera pas après la campagne de 2017. Donc on verra où. Peut-être dans la rue, on verra.
Aux élus étudiants, peut-être.
Ça, on verra.
On se retrouvera. Bien, merci beaucoup, Quentin, pour cette discussion autour donc de la France insoumise. Chers auditeurs, il est bientôt 21h sur Transistor. Vous écoutez le journal radiophonique Amplifié. Et tout de suite, avant de passer à la culture, nous en sommes aux sciences avec Alice. Bonsoir, Alice.
Bonsoir.